Alors, je vous pose une question. En juillet-août, c'est les mois qui sont habituellement réservés à... Enfin, pas réservés, mais qu'est-ce qu'on fait souvent en juillet-août? Ok, je m'attendais aux vacances, mais qu'est-ce qu'on fait d'autre? Comment? La boisson? Ah, la moisson! Pardon. La moisson, ok, non, je pensais pas à ça. Quoi d'autre que souvent en juillet-août, les week-ends? Les mariages, j'ai entendu les mariages, mais c'est normal, c'est ma fille, elle savait de quoi j'allais parler. Habituellement, en juillet-août, quand même, il y a beaucoup de mariages. Juin, juillet-août, parce que maintenant, on évite juillet-août, il fait trop chaud. Alors, aujourd'hui, après le culte, c'est pas un mariage qu'on va célébrer, mais un anniversaire de mariage. Alors, pour l'occasion, j'aurais pu mettre cette photo-là, parce que souvent, j'illustre mes diaporamas par des photos, mais avant, on faisait pas les photos 16/9 comme aujourd'hui, donc, et puis pour pas les gêner, je vais pas la laisser trop longtemps. Mais voilà, ça sera 50 ans de mariage qu'on célébrera aujourd'hui. Et en France, vous savez qu'on est les champions de l'amour. On a la ville de l'amour éternel, de la romance, du romantisme. J'ai nommé Paris, voilà, Paris avec son Pont des Arts. Qui était, je te parle au passé, parce qu'il était rempli de cadenas d'amour qui étaient censés représenter un amour indissoluble. Alors je dis censé, parce qu'en France, on est aussi champion, je ne sais pas si c'est particulièrement la France, mais en tout cas, on est aussi champion pour les divorces. Près d'un mariage sur deux finit par un divorce en France. Et il y a toutes sortes de couples qui se brisent. Des couples de chrétiens, ou pas, des couples qui ont vécu plusieurs années ensemble, qui ont eu des enfants ensemble, ou des jeunes couples qui ont quelques mois, quelques années. Et en fait, divorcer presque, ça devient banal, normal, c'est la vision de notre société sur le mariage, sur la relation amoureuse. Et hier, je lisais Google Actualité, et un des articles qui est sorti hier disait justement... montrer un peu toutes les nouvelles relations amoureuses que les jeunes ont, parce que le mariage conventionnel, il est appelé comme ça aujourd'hui, le mariage conventionnel, il fait plus rêver les jeunes, à cause peut-être des divorces. Et donc voilà, l'article commence comme ça, « Dire à son père que l'on multiplie les rencontres sur Tinder, c'est un site de rencontres juste pour les plans d'un soir, ou confier à sa mère que l'on vit une histoire d'amour à trois, bah tout ça, ça peut susciter des gênes. » Et puis derrière, il y a plein de jeunes qui témoignent de comment ils vivent l'amour aujourd'hui. Parce que la vision conjugale de l'amour conventionnel, elle ne fait plus rêver, parce que si c'est aussi fragile que tous les divorces qui arrivent derrière, bah ça ne fait pas rêver. Et peut-être que vous-même, ce matin, vous êtes passé, ou vous passez par toutes ces questions et ces souffrances, cette épreuve dans le couple. Alors je vous demande pardon si je... remue des couteaux dans la plaie, dans des blessures. Mais aujourd'hui, en fait, parce qu'après, on va célébrer un anniversaire de mariage, mais aussi parce que l'amour conjugal, ça se travaille tous les jours, et aussi parce qu'après, nos enfants, Dieu voulant, vont aussi vivre des couples, ben ce matin, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir la vision de Dieu sur la relation amoureuse, sur l'amour conjugal. Hier, on a fêté, donc on a célébré les 50 ans de mariage des parents dans un resto, juste en famille. Et à la fin, le patron du restaurant vient nous voir et nous dit « C'est quoi le secret ?» Enfin, il demande aux parents « C'est quoi le secret pour durer 50 ans ?» Et ce matin, je ne sais pas si c'est le secret, mais peut-être que le secret, c'est d'avoir une bonne vision et la juste vision du mariage selon Dieu et de l'amour conjugal selon Dieu. Donc ce matin, je vous propose de célébrer ensemble l'amour conjugal voulu par Dieu, et on va le faire en ouvrant un livre de la Bible, un livre qui nous ramène presque comme si on était au commencement de toute l'histoire humaine, parce qu'on va se retrouver dans des jardins avec des vignes, avec deux amoureux, un bien-aimé et une bien-aimée, avec des champs, des montagnes. On se croirait au commencement. Et dans la relation qu'on découvre, il n'y a pas de honte entre cet homme et cette femme. Ce couple est très amoureux. Et tout le livre, qui est un poème, en fait, célèbre l'amour conjugal et nous invite à célébrer l'amour conjugal voulu par Dieu. Alors, je vous invite, si vous avez vos Bibles, le texte sera aussi affiché. On va lire le plus beau des cantiques, le plus beau des chants d'amour, donc le livre du Cantique des Cantiques. On va pas tout lire parce qu'il y a 8 chapitres, mais on va lire juste 2 versets. Mais ces 2 versets résument, condensent toute la vision de l'amour conjugal voulu par Dieu. Alors on lit Cantique des Cantiques, chapitre 8, les versets 6 et 7. 2 versets uniquement. Je lis dans la version Nouvelle Bible Second. Dans le livre, il y a la bien-aimée et le bien-aimé, c'est comme ça qu'ils sont appelés. Et là, c'est la bien-aimée qui parle. Elle parle à son bien-aimé. « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. La passion jalouse est dure comme le séjour des morts. Ses fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne sauraient l'emporter. Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. » Dans ces 2 versets, on a un condensé de la vision de l'amour conjugal selon Dieu. Et ce condensé, je le résume en 6 attributs qu'on va retenir, 6 attributs qu'on peut célébrer, qu'on peut mettre à l'honneur en les vivant, si on est en couple, ou si on n'est pas en couple, en les promouvant, en les défendant aussi quand on parle du couple autour de nous et en les transmettant aussi à nos enfants. Alors voici les 6 attributs qui célèbrent l'amour conjugal voulu par Dieu. Le premier, célébrons l'amour conjugal indélébile. Ça, c'est ce qu'on comprend quand la bien-aimée dit « Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. » Le sceau, si vous savez, c'est un objet qui permet de laisser une empreinte indélébile pour marquer ou pour sécuriser les objets qui nous appartiennent. Et on trouve des exemples dans la Bible. Il y a le grand prêtre d'Israël avait 2 sceaux sur son cœur, 2 sceaux sur lesquels étaient écrits les tribus d'Israël. Et le texte nous dit qu'il les avait à cet endroit pour en garder le souvenir devant l'Éternel. Et le sceau, c'est un moyen donc aussi de se souvenir. Et dans l'amour conjugal, le sceau, c'est aussi un moyen pour les conjoints de se souvenir. C'est l'empreinte indélébile de l'autre qui est laissée. C'est l'empreinte indélébile privée pour moi-même qui est laissée à l'intérieur. Ça, c'est quand le sceau qui est placé sur le cœur. J'ai une empreinte indélébile d'Anne-Claire. Anne-Claire, c'est mon épouse. J'ai une empreinte indélébile d'Anne-Claire sur mon sceau. Vous ne le voyez pas. Il n'y a que moi qui sais qu'elle est là sur mon cœur. Et cette empreinte, elle est là. Et le sceau, c'est aussi dans l'amour conjugal, l'empreinte indélébile qui est publique. Ça, c'est le sceau qui est sur le bras. Un sceau qui est sur le bras, tout le monde le voit. Vous aussi, vous pouvez l'avoir. Et dans le Cantique des Cantiques, les bien-aimés célèbrent cet amour conjugal indélébile en disant une phrase qui revient régulièrement dans ce livre. Ils disent « Mon bien-aimé est à moi et moi, je suis à lui ». Ils se le disent l'un à l'autre, en privé, mais ils se le disent aussi en public. C'est une empreinte indélébile. Ils disent « Je suis scellé à l'autre et l'autre est scellé à moi ». Et cet anneau-là, par exemple, qui est autour de mon doigt, à moi, c'est un sceau. C'est une empreinte indélébile qui me rappelle, à moi, en privé, dans les moments où je suis peut-être tenté d'aller voir ailleurs, dans les moments où je suis en colère contre mon épouse et puis que j'ai envie de laisser tomber, ce sceau me rappelle « Eh, je suis à mon épouse et elle est à moi ». Mais ce sceau, il est aussi public, vous le voyez tous. Et ce sceau, à vous, il vous rappelle « Attention, chasse gardée, JD appartient à Anne-Claire, on n'y touche pas ». Et inversement. Hein. Mais cependant, aujourd'hui, en France, 33% des couples qui divorcent le font pour cause d'infidélité. C'est la première cause de divorce en France. Dans ces couples, l'un ou l'autre, un jour, a dit « Mon bien-aimé est à moi, ok, mais moi, je ne suis pas qu'à lui. » Dans ces couples, un jour, le sceau a été décellé. L'empreinte indélébile qui était censée être sur le bras, elle a été écartée, comme lorsqu'on enlève son alliance pour aller flirter dans un bar et puis se laisser ouvert pour des conquêtes. Ou comme lorsqu'on marque, on masque le sceau qui est sur notre cœur, que notre femme, elle n'est plus à la maison, etc., et puis qu'on va sur Internet. Le sceau, il a été un jour décelé. Mais ce qu'il faut retenir, si c'est un sceau indélébile, une marque indélébile, on ne peut pas l'enlever comme ça si facilement. C'est douloureux. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui ont des tatouages. Un tatouage, c'est indélébile. Et il y a des moyens, il y a des méthodes pour enlever les tatouages. Mais toutes ces méthodes, elles sont douloureuses. Peu importe la méthode, et il y a des risques d'éventuelles complications ou effets indésirables. Et bien c'est pareil pour l'amour conjugal indélébile. Lorsqu'il est décelé, c'est douloureux et ça a des conséquences. Mais ce que nous dit le Cantique des Cantiques, toute l'histoire du Cantique des Cantiques, c'est que l'amour conjugal indélébile qui avait été voulu par Dieu au tout départ, mais Adam et Ève, le premier couple, lorsqu'ils ont brisé l'amour conjugal, lorsqu'ils ont brisé l'amour conjugal indélébile, cette indélébilité, elle a été cassée. Mais le Cantique des Cantiques nous dit l'amour conjugal indélébile, il peut être restauré, il peut être retrouvé, il peut être racheté. Alors, à nous qui sommes mariés, il y en a ce matin, célébrons l'amour conjugal indélébile dans notre couple. Transmettons à nos enfants, par exemple, la joie d'être fidèles dans notre couple, d'être scellés l'un à l'autre, d'avoir une marque, alors ça peut être une alliance ou une autre, mais d'avoir une marque indélébile qui montre qu'on se souvient qu'on appartient à l'autre. On peut fêter nos anniversaires de mariage aussi avec la famille, avec les enfants, pour leur transmettre cela. Avec Anne-Claire, nous, on vient d'avoir 18 ans de mariage. Les parents ont eu 50 ans de mariage. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus de 50 ans de mariage là dans la salle? Ouais, il y en a. Eh ben, réjouissons-nous avec ceux qui arrivent aussi au terme de leur vie terrestre en étant restés ensemble, scellés l'un à l'autre. Et puis, à ceux qui ne sont pas mariés, vous pouvez aussi célébrer l'amour conjugal indélébile. Vous pouvez le protéger. Si vous voyez, par exemple, un couple d'amis dans lequel l'empreinte indélébile commence à peut-être à s'effacer. Avec les moyens qu'on a, on peut discuter avec nos amis pour essayer de restaurer l'amour indélébile. On peut le protéger aussi si on sent que notre cœur est attiré vers quelqu'un qui a en fait déjà la marque indélébile. Et puis on peut dire non, je suis attiré par lui ou elle, mais je n'y vais pas, il y a déjà une marque. Célébrons l'amour conjugal indélébile voulu par Dieu. La deuxième marque, c'est célébrer l'amour conjugal irrésistible. C'est ce qu'on apprend là quand la bien-aimée dit « L'amour est fort comme la mort ». Alors vous notez bien, l'amour n'est pas plus fort que la mort. L'amour est fort comme la mort. Il est aussi fort que la mort. Alors peut-être c'est étonnant d'utiliser la mort pour la comparer avec l'amour. Est-ce que vous savez pourquoi du coup on peut dire ça? Pourquoi on utilise la mort là pour comparer la force de l'amour? La mort est éternelle, ouais. Alors vous pouvez essayer de deviner avec l'adjectif que j'ai utilisé. Qu'est-ce qu'elle a la mort qui est très très fort? Tout le monde y passe. La mort est irrésistible. La mort est irrésistible. Qui parmi vous peut résister à la mort? Quelqu'un? Personne. Personne ne peut échapper à la mort, personne ne peut résister à la mort, et c'est en ce sens qu'elle est irrésistible. Un jour ou l'autre, on va tous mourir, on ne peut rien y faire, et mon père a l'habitude de dire que depuis qu'on est, eh ben, on y va vers la mort. On ne peut pas lui échapper, elle est irrésistible. Et de même, là, le texte biblique nous dit, nous apprend que l'amour conjugal est tout autant irrésistible. Alors ça ne veut pas dire que tout le monde va tomber amoureux, mais ça veut dire qu'à partir du moment où une relation amoureuse débute, l'amour du couple va devenir de plus en plus fort. Et on le voit, quand il y a une relation amoureuse qui débute, je me souviens de ma relation avec Anne-Claire, on pouvait passer des heures au téléphone, c'est irrésistible, on a envie d'être avec l'autre personne, etc. C'est irrésistible. On ne peut pas y mettre un terme à l'amour conjugal. L'amour de l'autre, l'amour pour l'autre m'attire de plus en plus. Et cette force de l'amour conjugal dans le Cantique des Cantiques, elle est célébrée. Vous pourrez relire tout le Cantique des Cantiques chez vous à la maison. Vous verrez comment les bien-aimés montrent cette force irrésistible de l'amour. Jamais ils ne tarissent d'éloges, jamais ils ne tarissent de compliments l'un envers l'autre. Que ça soit avant le mariage, durant le mariage, ils entretiennent, ils développent, ils renforcent cet amour conjugal par diverses manifestations, y compris les manifestations physiques. Tout le livre est rempli d'amour irrésistible. L'amour dans leur couple à eux est irrésistible et les bien-aimés se laissent entraîner par cette force de l'amour. Cependant, combien d'amour, combien de couples entrent dans ce qu'on peut appeler une routine assassine de l'amour? Et l'amour conjugal perd cette force à cause de la routine. À chaque fois que je lis le Cantique des Cantiques, personnellement, je suis interpellé et remis en question. Et aujourd'hui, 22% des couples qui divorcent le font pour cause d'égoïsme du partenaire. Donc ça, c'est des sources qui viennent d'une étude et ils donnaient les détails dedans. Donc je prends ce qui est donné dedans. Dans l'égoïsme du partenaire, ils disent par exemple que le conjoint manque d'affection, manque de soutien pour l'autre. En fait, l'égoïsme dans le couple, c'est quand ma propre personne devient plus irrésistible que l'autre. Il faut que je m'occupe toujours plus de moi, plutôt que de ma bien-aimée, plutôt que de mon bien-aimé. Mais de ce qu'on voit dans le Cantique des Cantiques, c'est que l'amour conjugal cherche à restaurer, à retrouver, à racheter ce côté irrésistible de l'amour. Au point qu'à un moment, la bien-aimée, elle est en train de rêver, ou pas, mais plutôt peut-être en train de rêver, elle court dans les rues, et puis elle dit aux filles de Jérusalem qu'elle croise dans la rue, elle leur dit de rechercher son bien-aimé, et elle leur dit « Je vous en adjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, dites-lui que... » Et là, on l'entend presque chanter. « Dites-lui que je suis malade, complètement malade d'amour sans lui. » C'est dans le texte Cantique, chapitre 5. À nous qui sommes mariés, du coup, comme dans le Cantique des Cantiques, célébrons l'amour conjugal irrésistible en cherchant sans cesse à avoir de l'affection, du soutien, des éloges, des compliments envers l'autre, en ayant des moments intimes aussi, l'apôtre Paul dira « ne vous privez pas l'un de l'autre ». Ne laissons pas la routine affaiblir cette force irrésistible de l'amour conjugal. Célébrons aussi l'amour conjugal irrésistible dans notre couple en sachant sacrifier notre égoïsme, nos intérêts personnels pour chérir l'autre que nous aimons, pour chérir l'autre avec lequel nous avons fait une alliance. Et puis à vous qui n'êtes pas mariés, vous pouvez aussi célébrer l'amour conjugal irrésistible avec nous, parce que quand la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques rencontre ses filles, elle leur dit « Cherchez-le avec moi, j'ai envie d'être avec lui, c'est irrésistible, mais je l'ai perdu là pour le moment. » Et donc elle les invite à le chercher, et au début, les filles de Jérusalem ne vont pas trop l'aider à faire coller cet amour irrésistible. Elles vont dire « Non, mais qu'est-ce qu'il a ton bien-aimé? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres ?» Donc la bien-aimée va décrire son bien-aimé, et là les filles de Jérusalem, elles vont dire, je paraphrase, « Waouh, mais tu l'aimes vraiment ton bien-aimé. Eh ben, on va le chercher avec toi. » Et vous pouvez, tous, on peut aider l'un des couples à retrouver comme ça le mari l'épouse. On peut aider à restaurer cet amour irrésistible. Donc, célébrons ensemble l'amour conjugal irrésistible. Le troisième attribut qu'on peut célébrer, c'est l'amour conjugal inflexible. Le texte dit « La passion jalouse est dur comme le séjour des morts ». Peut-être dans vos traductions, vous avez une traduction qui dit « La passion jalouse est aussi inflexible que le séjour des morts ». Encore une fois, on utilise la mort pour montrer la force de l'amour. Parce que vous savez, le séjour des morts, donc c'est là où sont les morts, le séjour des morts, il est rigide en fait. Il retient, il garde jalousement ses morts. C'est pas comme dans certains films de Disney, je sais pas si vous avez vu Coco, c'est un film de Disney où le jour de la fête des morts, les morts peuvent ressortir du séjour des morts et puis faire la fête avec les vivants et après ils y retournent. Mais en fait, le séjour des morts, il est pas comme ça. On peut pas négocier avec le séjour des morts. Un mort est mort et il ne peut pas faire des allers-retours. Et ben, en ce sens, l'amour conjugal est aussi inflexible. Le séjour des morts retient jalousement ses morts. L'amour conjugal est inflexible. Il ne relâche pas son amour pour celui ou celle qui lui appartient. Il ne transige pas sur ses exigences. Mais là aussi, tout est parti en vrille lorsque l'amour conjugal initial a été brisé. Parce qu'aujourd'hui, près de 15% des couples qui divorcent le font pour cause de comportements abusifs et notamment de jalousie. Sauf que cette jalousie humaine et mauvaise qu'on trouve aujourd'hui, elle a totalement été inversée. Cette mauvaise jalousie, elle se met en colère quand l'autre fait un sourire à quelqu'un du sexe opposé, par exemple. Cette mauvaise jalousie, elle séquestre l'autre dans la maison pour l'empêcher d'aller voir d'autres personnes. Par exemple, quand la femme veut que son mari soit tous les soirs à la maison et qu'il n'aille pas voir ses amis. Mais ça, c'est pas la jalousie qui est présente dans le Cantique des Cantiques. Dans le livre du Cantique, les deux bien-aimés jouissent d'une réelle liberté dans le couple. Ils peuvent entrer, sortir, aller voir d'autres personnes, etc. en toute confiance parce qu'ils savent que je suis à mon bien-aimé et son désir se porte vers moi, pas vers un autre. Donc j'ai confiance. Et c'est une toute autre jalousie inflexible qu'on trouve dans le Cantique. La jalousie inflexible du Cantique, elle dit quelque chose comme ça. Elle dit « Je veux que mon propre cœur garde jalousement en lui-même l'amour, le désir que j'ai envers ma seule et unique bien-aimée. Je ne veux pas que mon cœur se tourne vers une autre ou vers d'autres priorités. J'ai pris des engagements, j'ai scellé une alliance envers ma bien-aimée et je serai exigeant envers moi-même. C'est moi-même qui doit être inflexible, qui ne doit pas fléchir envers mes engagements. Ça, c'est totalement l'inverse de la jalousie qu'on trouve et qu'on entend peut-être autour de nous. Une jalousie mauvaise qui dit « Je ne veux pas que le cœur de ma bien-aimée se tourne vers un autre. Je serai exigeant envers elle pour qu'elle respecte ses engagements qu'elle a pris envers moi. Elle ne doit pas fléchir. Je ferai en sorte qu'elle ne fléchisse pas. » Ça, c'est une mauvaise jalousie et c'est pas la jalousie qu'on rencontre dans le Cantique. C'est pas envers l'autre que nous devons être inflexibles dans l'amour conjugal, c'est envers nous-mêmes. C'est envers notre propre cœur et nos propres engagements. Alors à nous les couples, célébrons l'amour inflexible dans notre couple en n'inversant pas la jalousie, ne fléchissons pas envers nos engagements. Célébrons l'amour inflexible dans notre couple en commençant par notre propre cœur, en montrant à l'autre que nos désirs se portent vers lui, en lui montrant que nous avons confiance en lui, dans le fait que ses désirs se portent aussi vers nous. Et à vous qui n'êtes pas mariés, et peut-être plus particulièrement à ceux qui sont témoins lors des mariages, vous avez un rôle en fait. Les témoins, vous êtes là, vous entendez les engagements que les mariés se donnent, et normalement vous êtes là aussi dans les années qui suivent pour parfois rappeler aux mariés « Eh, tu as fait des promesses, tu as fait des engagements. Garde tes engagements, sois inflexible envers ces engagements. » Rappelez-nous les promesses qu'on a faites envers notre bien-aimé. On a choisi de l'aimer. Dans les bons et les mauvais jours, on dit même. On s'est engagé. Alors ensemble, célébrons l'amour conjugal inflexible. Ensuite, célébrons l'amour. L'amour est décrit comme un feu là dans les versets. Il dit ce sont des fièvres brûlantes, des flammes de l'Éternel. Et le verset suivant nous dit les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Donc l'amour est comparé à un feu là. Et donc ensemble, célébrons l'amour inextinguible. Ce feu, il est inextinguible. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire inextinguible? Parce que c'est pas un mot qu'on utilise souvent. Il ne peut pas être éteint. Voilà. C'est un feu qui ne peut pas être éteint. Un couple, hier comme aujourd'hui, passe parfois par des épreuves. Les couples qui sont dans la salle, vous êtes d'accord, on passe parfois par des épreuves. Des épreuves qui sont soit individuelles, ça peut être l'un seulement du couple qui vit une épreuve, ou des épreuves qui touchent les deux en même temps. Parfois, l'épreuve, elle est collective. Et la question, c'est, l'épreuve va-t-elle éteindre l'amour conjugal ? D'après les statistiques, près de 15% des Français qui divorcent le font pour cause de désaccord concernant l'avenir. Ils ne sont pas d'accord sur les objectifs poursuivis dans le couple. Pas d'accord sur la maison, sur les enfants, sur l'animal domestique, etc. Et tous ces désaccords, qui sont en soi des épreuves, petit à petit éteignent l'amour conjugal. Et dans l'article qui est sorti hier, justement, il y a une jeune qui témoigne et qui dit, en disant, elle dit, « Les relations monogames ne sont pas franchement ma tasse de thé. Je n'ai pas envie de subir un quotidien. » Donc elle, elle parle de la routine assassine aussi. « Se prendre la tête sur qui fait la vaisselle, organiser des vacances à deux, non merci. » Donc elle voit en ces petites choses des difficultés, qui va faire la vaisselle, etc. Et elle n'en veut pas, donc ça éteint son amour conjugal. Et donc elle conclut en disant « J'ai déjà mon chat comme contrainte, je ne veux pas m'embarrasser d'un homme. » Mais personnellement, quand je lis « Des grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour », j'imagine pas que c'est une question de qui va faire la vaisselle. Ça me paraît un peu un tout petit ruisseau, ça. Je n'imagine pas les fleuves qui ne peuvent emporter l'amour. Je n'imagine pas ça comme une question d'animal domestique. Est-ce qu'on choisit un chihuahua ou un labrador ? Est-ce qu'on choisit une maison plein pied ou une maison trois étages ? Personnellement, j'imagine les grandes eaux ou les fleuves comme des épreuves bien plus dures. L'annonce, par exemple, d'un cancer pour l'un des conjoints. Un accident qui va paralyser l'un des deux, ou encore dans des pays, par exemple, où la persécution sévit contre les chrétiens, la mise en prison d'un des deux membres du couple pendant 13 ans. Vous retrouvez, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur le site de Portes Ouvertes l'histoire du couple Doc et Dick. Ils habitent au Laos et le mari a été mis en prison pendant 13 ans à cause de sa foi. Et le couple ne s'est jamais éteint. Ils ont continué tous les deux de servir le Seigneur là où ils étaient, et quand ils ont pu se retrouver, ils s'aimaient encore plus. Et je pense que ce sont là des grandes eaux et des fleuves qui passent sur le feu de l'amour conjugal, au risque, c'est vrai, de l'éteindre. Mais le texte nous dit « De grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et des fleuves ne sauraient l'emporter. » Et pour en connaître plusieurs, personnellement, j'admire et je célèbre l'amour des couples qui sont passés par des tsunamis comme ça et où l'amour conjugal ne s'est pas éteint. Il est inextinguible. Il devient plus brûlant, plus fort. Alors à nous, les couples, célébrons l'amour inextinguible dans notre couple en ne laissant pas des petites eaux éteindre l'amour. Ne laissons pas les épreuves de la vie courante éteindre notre amour l'un pour l'autre. Célébrons l'amour conjugal inextinguible, en le restaurant, en le renforçant durant l'épreuve aussi. Et puis à vous qui n'êtes pas mariés, vous avez aussi un rôle que vous pouvez prendre. On le voit aussi dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, on parle beaucoup de la vigne. Et la vigne, c'est une image un peu pour parler de la relation amoureuse. Et les bien-aimés, à un moment, disent à leurs amis de venir attraper pour eux les petits renards qui viennent dévaster la vigne. Donc les petits renards, les petites épreuves qui viennent dévaster la relation amoureuse, la relation conjugale. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut faire aussi, aider les couples à se débarrasser des petites épreuves de la vie pour que le couple puisse continuer de brûler. Ensemble, célébrons l'amour conjugal inextinguible voulu par Dieu. Le cinquième attribut qu'on peut célébrer, c'est l'amour conjugal inestimable. Parce que franchement, un amour comme ça, qui dure, qui est fort, etc., qui est beau, ça fait rêver. Moi, j'aimerais que toutes nos rues soient remplies de couples qui s'aiment de cette manière. Et on pourrait se poser la question, parce qu'aujourd'hui, on trouve des livres pour tout, des méthodes, vous trouverez même des méthodes comment plaquer son mec en 10 trucs, etc. On trouve de tout, mais moi, on pourrait aussi se poser la question, est-ce qu'il y a des méthodes pour vivre un tel couple, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux acheter pour réussir à vivre un amour comme ça ? Est-ce que je peux acheter l'amour pour mon couple? Est-ce que je peux acheter l'amour de ma femme? Est-ce que je dois la payer? Mais la dernière phrase de notre texte est là pour répondre et elle dit « Quand un homme donnerait tous les biens de sa maison contre l'amour, il n'obtiendrait que le mépris. » L'amour conjugal, ça ne s'achète pas. Il est inestimable, il n'a pas de prix. On ne peut rien faire pour obtenir un tel amour de la part de notre conjoint. Je peux payer pour avoir la compagnie d'une femme pendant quelques heures. Ça s'appelle des call girls, etc. Je ne le fais pas. Mais on peut payer pour avoir de la compagnie. Mais l'amour conjugal, il est inestimable. Il n'a pas de prix. Il ne s'achète pas. Il peut uniquement être donné. Je ne peux pas acheter l'amour d'Anne-Claire, je ne peux pas acheter l'amour de mon épouse, je ne peux que lui donner mon amour. Et réciproquement. Dans l'amour conjugal, je me donne à l'autre entièrement, sans attendre que l'autre fasse quelque chose pour obtenir mon amour. Je me donne à l'autre sans condition. Je l'aime parce que j'ai choisi de l'aimer et pas parce qu'elle mérite d'être aimée. Malheureusement, plus de 10% des couples qui divorcent le font pour cause d'argent et de travail. Par exemple, parce que quelqu'un a perdu son emploi ou parce qu'il y a des dettes contractées. C'est un peu comme si finalement l'autre disait « bah, t'as perdu ton job, t'es plus capable de payer, de remplir ta part du marché, bon ben bye bye. T'as pas assez d'argent pour combler mes désirs, bon ben bye bye, je ne vais plus t'aimer. » Et c'est ce qui se produit quand l'amour dans le couple est devenu inestimable et qu'on pense qu'on doit acheter, que l'autre doit mériter notre amour. Et ça, ce n'est pas la bonne vision de l'amour conjugal. Alors à nous, les couples, célébrons l'amour conjugal inestimable. Aimons notre bien-aimé sans attendre qu'il ou elle fasse telle ou telle chose pour nous, qu'il ou elle ramène tant ou tant d'argent à la maison, etc. Et souvent, on peut entendre des personnes qui disent « Je l'aime parce que elle s'habille bien. Je l'aime parce qu'il cuisine bien. Je l'aime parce qu'il a un bon poste. » Et le jour où il n'aura plus ça, est-ce qu'on l'aimera encore ? J'aime parce que j'ai choisi de l'aimer, quoi qu'il en coûte. J'ai pris cet engagement. Et ensemble, célébrons l'amour conjugal inestimable en aimant sans attendre en retour. Et à vous qui n'êtes pas mariés, mais qui êtes peut-être dans cette période de fréquentation, qu'on appelle voilà, la période des fréquentations, vous pouvez aussi célébrer l'amour inestimable durant cette période. Parce que je me souviens, quand j'étais à Nancy, en école d'ingénieur, où j'ai rencontré du coup Anne-Claire, il y avait des amis qui étaient aussi en couple depuis des années. Mais pas mariés. Et en fait, quand je leur posais la question, mais pourquoi, si tu vis ensemble depuis 5, 6 ans, etc., pourquoi vous ne vous mariez pas, en fait ? Et une fois, un gars m'a répondu, parce que j'ai peur que le jour où on se marie, ma femme ne fasse plus d'efforts pour être aimée. Et ben, je me suis dit, ben, vaut mieux alors qu'il ne se marie pas. En effet, ne cherchons pas, durant ces périodes non plus, à acheter ou à gagner l'amour conjugal. L'amour conjugal, il se donne. On le donne nous-mêmes. Et il y a un dernier point qu'il faut aussi célébrer et qui est important à noter. Surtout, célébrons l'amour conjugal inhumain. Parce que honnêtement, l'amour conjugal dont je suis en train de parler là depuis un certain temps, un amour indélébile, irrésistible, inflexible, inextinguible, inestimable, avec nos propres forces, vous allez me dire, il est juste... Ah non, il faut rester en in. Inatteignable. C'est dur d'aimer comme ça. Et je suis réaliste. Je sais que la vie en couple n'est pas toujours rose. Qu'il y a des situations inadmissibles au sein de certains couples. Que le péché, la dureté du cœur de l'homme, qui est là par le péché, fait que parfois, bah, Dieu a permis aussi le divorce. Et le couple, en plus, dans notre société, est aussi de plus en plus mis à mal. Donc il y a des moments où c'est dur, mais la dernière phrase du verset 6 nous éclaire en nous disant que cet amour, il est inhumain, il ne vient pas de l'humain. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme du Seigneur. L'amour conjugal, beau et fort que nous présente le Cantique des Cantiques, c'est une flamme du Seigneur. Et si vous lisez le Cantique des Cantiques chez vous tout à l'heure en rentrant, essayez, comptez combien de fois le mot Seigneur apparaît ou combien de fois on parle de Dieu. On n'en parlera qu'une seule fois à cet endroit-là. C'est la seule fois où le nom de Dieu est utilisé. Et qu'est-ce que nous apprend ce nom de Dieu utilisé à cet endroit-là ? Il nous apprend que l'amour conjugal ne vient pas de l'homme. L'amour conjugal qui cherche à se restaurer, comme Dieu l'avait voulu au début de l'histoire humaine, cet amour-là n'est pas humain. Il est inhumain ou il est surhumain. Il vient de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est lui, en fait, qui est le concepteur de l'amour. C'est pas l'homme, c'est pas nous qui avons inventé le mariage. C'est Dieu qui a instauré le mariage. Et c'est même, Dieu l'a même instauré avant Christ. Le mariage n'est pas réservé aux chrétiens. Le mariage, il est pour tout le monde. Et Dieu nous donne cet amour conjugal comme un cadeau. Et franchement, un cadeau comme ça, j'ai envie de l'utiliser. Sauf que je sais pas si vous êtes comme moi. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit des cadeaux à Noël ? Comment ? Alors maintenant, on les vend. Nos cadeaux, on les vend. Donc là, Dieu nous donne un cadeau. Souvent, le cadeau, en tout cas, je me souviens quand j'étais enfant, t'es tout feu, tu flammes, tu l'utilises bien les premières semaines, 2 semaines, 3 semaines. Puis après, tu l'utilises de moins en moins. Puis après, t'oublies même que t'as ce cadeau. Puis quand tu le retrouves, tu te dis, tiens, qui c'est qui m'avait offert ce cadeau ? Et ben là, on a un cadeau qui est fait par Dieu de l'amour conjugal. Parfois, on l'utilise bien, puis parfois, on l'oublie petit à petit. Et on oublie qui nous l'a donné. Et on s'en sert de moins en moins bien. Alors, célébrons l'amour conjugal inhumain, surhumain, en nous souvenant de qui il vient, en nous rappelant qu'il est un cadeau de Dieu, et du coup, qu'il est important d'inclure Dieu dans l'amour conjugal, parce que c'est lui qui en est le créateur. En fait, Dieu sait beaucoup mieux que nous comment ça marche un homme et une femme. Il sait beaucoup mieux que nous comment ça marche le mariage, puisque c'est lui qui l'a instauré, créé. Il sait beaucoup mieux que nous comment ça marche l'amour, parce que c'est Dieu qui a fait des promesses indélébiles pour ses enfants. Et on l'a chanté tout à l'heure, Dieu est fidèle, il ne va jamais rompre ses promesses. Il sait ce que c'est l'amour indélébile. Dieu sait mieux que nous comment ça marche l'amour. Parce que c'est lui qui nous a aimés d'une façon tellement irrésistible qu'il a donné son Fils pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Dieu sait mieux que nous comment ça marche l'amour. Parce que c'est lui qui nous a prouvé que son amour était inflexible lorsque Christ est mort pour nous alors que nous, on ne l'aimait même pas. Lui, il nous a aimés à l'extrême, parce qu'il a choisi de nous aimer, sans attendre en retour. Dieu sait mieux que nous comment ça marche l'amour, parce que ni la détresse, ni l'angoisse, ni la faim, ni le dénuement, ni le danger, ni la guerre, ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, rien, absolument rien, ne pourra éteindre l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ. Son amour envers nous est inextinguible. Dieu sait mieux que nous comment ça marche l'amour. Parce que par amour pour nous tous, il a fait quelque chose d'inestimable. Il a livré son propre Fils à la mort sur la croix pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et cet amour-là n'a pas de prix. Il ne s'achète pas. Un jour, un magicien dans le Nouveau Testament a voulu acheter le don de Dieu. Et les apôtres l'ont dit, non, ça ne s'achète pas. On n'achète pas l'amour de Dieu. Dieu nous le donne, c'est le don gratuit de Dieu et à nous de l'accepter. Alors oui, Dieu désire que notre mariage, notre amour conjugal l'inclut lui. Avec lui, nous pourrons vivre pleinement les beaux attributs que Dieu avait, a prévus pour l'amour conjugal, et nous pourrons célébrer 10 ans de mariage, 20 ans, 30, 40, 50, 60, 70, etc. C'est ma prière pour nous tous. Alors pour conclure, une seule question. Lequel de ces attributs est-ce que je veux restaurer, racheter, retrouver dans mon couple avec l'aide de Dieu? Est-ce que je veux restaurer le côté indélébile de l'amour? Est-ce que le sceau est toujours présent sur mon cœur, sur mon bras? Est-ce que je veux restaurer le côté irrésistible de l'amour? Est-ce que je fais encore des éloges, des compliments à mon bien-aimé, etc.? Est-ce que je veux restaurer le côté inflexible? Est-ce que mon cœur peut-être commence à se relâcher sur les engagements que j'ai pris? Est-ce que je veux restaurer le côté inextinguible? Est-ce que ma flamme est toujours ardente? Ou bien des petites eaux sont en train de l'éteindre? Est-ce que je veux restaurer le côté inestimable? Est-ce que je commence à attendre de l'autre qu'il fasse telle ou telle chose pour que je l'aime? Ou est-ce que je veux restaurer le côté inhumain, surhumain? Est-ce que Dieu a toujours la bonne place dans ma vie et dans mon couple? Et pour ceux qui ne sont pas en couple, vous pouvez vous poser la question aussi, lequel de ces attributs est-ce que je veux promouvoir ou défendre auprès peut-être d'un couple d'amis qui passerait par des difficultés? Le roi Salomon, qui est le roi qui a certainement écrit le poème du Cantique des Cantiques, en termes d'amour conjugal, il a mal fini. Mais ma prière, c'est que ça ne soit pas le cas pour nous, qu'on puisse régulièrement revenir à ce livre pour y trouver une motivation renouvelée pour célébrer encore et encore l'amour conjugal dans notre couple tel que Dieu l'avait voulu. Je vais terminer en priant. Seigneur notre Dieu, ce matin, c'est toi que je veux louer et je veux louer particulièrement ton amour. Ton amour envers nous qui est marqué d'une croix, une croix qui ne bougera jamais, qui est indélébile. Ton amour envers nous qui est que rien ne pourra éteindre. Ton amour envers nous qui remplit tous ses attributs. Merci Seigneur de nous aimer aussi fort. Seigneur, merci aussi d'avoir instauré le mariage, l'amour conjugal entre l'homme et la femme. Et Seigneur, je te prie pour que nous puissions vivre cela dans chacun de nos couples. Je prie pour que tu nous aides tous à t'inclure et que tu nous soutiennes chacun. Je te prie particulièrement pour les couples qui actuellement peut-être passent par des moments douloureux, compliqués, difficiles. Que tu puisses leur faire grâce, comme on l'a entendu aussi ce matin, que tu puisses leur apporter ta grâce, ton soutien, ta paix, pour qu'ils puissent trouver en toi le berger sur qui ils pourront s'appuyer pour continuer de chercher à vivre cela de leur côté dans leur couple. Seigneur, je te prie aussi pour chacune des personnes qui peut-être réfléchit à un jour aussi se marier, pour que chacun d'entre nous, d'entre elles aussi, ait la bonne vision de l'amour conjugal. Tu vois combien notre société aussi tape et cherche à déconstruire aussi cette image, cette vision de l'amour. Je te prie pour que tu nous donnes la bonne vision de l'amour qui vient de toi, pour que nous puissions la vivre. Et je te prie pour que chacun des couples, nous puissions être des témoins de cette beauté de l'amour, pour que à travers nos couples, ils puissent voir, nos contemporains puissent voir ton amour, puissent voir la beauté, la sagesse aussi que l'on trouve dans ta parole et en toi. Que cela puisse les attirer et qu'ils puissent un jour, dans ta grâce, se tourner vers toi, goûter aussi à ton amour et être aussi restaurés. Et Seigneur, enfin aussi, je te loue pour tous ces couples qui traversent les années ensemble. Merci parce que tu es leur soutien, tu es leur houlette, leur bâton. Et tu les guides jusqu'au bout. Et je te prie, Seigneur, de les bénir et de les soutenir encore jusqu'à la fin de leur jour. Amen.